I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth.
Nous sommes en compagnie d'Olivier Grasset et nous parlons d'Europe, de Ganymède, de Jupiter, de son système. Aujourd'hui, si on fait un bilan, je dirais d'étape, comme on dit, du projet Laplace, quelles sont les prochaines échéances et je dirais qu'est-ce qui est aujourd'hui réaliste pour imaginer un calendrier de débarquement ou en tout cas d'arrivée de la mission européenne dans le système jovien?
Alors, si pour donner des dates très très simples, on parle aujourd'hui d'un envol, enfin d'un départ en 2022 pour une arrivée en 2027 et donc une étude scientifique du système entre 2027 et 2029, en quelque pour à peu près quoi, avant 2030 mais pas tellement avant. Voilà, ça pose les bases. On est en 2011, on parle de quelque chose qui va se passer au mieux dans 18 ans.
On peut le faire seul?
Donc ça, c'est l'autre partie du débat, parce que vous l'avez dit, j'ai beaucoup parlé à l'imparfait. La mission Laplace, aujourd'hui, depuis deux mois, en fait, n'a plus de contribution américaine. Nous sommes amenés, compte tenu de l'actualité, des budgets décidés aux États-Unis pour l'instant, nous sommes amenés à considérer un nouveau plan de mission qui serait avec l'Europe seulement. Je ne peux rien dire sur l'avenir. Il n'est pas du tout exclu que dans un an, on revienne en arrière et on revienne sur le projet antérieur. Ce sont des choses qui personnellement, de toute façon, me dépassent. C'est pas à moi de décider ce que seront les budgets, où seront mises les priorités. Mais de toute façon, aujourd'hui, nous sommes dans le contexte où nous devons travailler sur un projet ESA seulement.
Ça ne veut pas dire que les Américains ne s'intéressent plus à Europe.
Ça ne veut absolument pas dire qu'ils ne s'y intéressent plus. Ça veut dire qu'ils ont un choix à faire. Ils ne peuvent plus faire et une mission vers Mars et une mission vers Europe, alors qu'auparavant on ne parlait pas de compétition, c'était censé être des programmes totalement séparés. Aujourd'hui c'est plus le cas, et il ne faut pas croire que Mars va mieux, hein. ils ont des sacrés soucis aussi pour leur exploration après 2018 de la planète Mars. Mais donc je ne sais pas ce qui se passera, mais c'est vrai qu'aujourd'hui de toute façon nous ne pouvons pas considérer que les Américains vont retourner sur Europe dans le calendrier annoncé, c'est-à-dire avant 2022 ou en 2022. Donc l'Europe, l'ESA, a dit, et c'est valable pour cette mission-là, tout comme pour les autres missions en astrophysique qui sont aussi à l'étude. Donc les trois, enfin, puisqu'il y en a trois en fait, missions à l'étude sur ce budget, les trois missions à l'étude doivent revoir leur copie en disant, ben, maintenant on va travailler tout seul. Et donc pour répondre à la question, oui, c'est faisable. On peut retourner dans le système, et heureusement, on peut aller dans le système de Jupiter avec seulement un concept européen. Je vous ai dit, n'imaginez pas qu'on va aller sur Europe, c'est pas possible. Le concept, par contre, d'étude de la Lune Ganymède et tout ce travail sur l'environnement de Jupiter dont je parlais avant, parce qu'on va passer un an et demi dans le système, reste tout à fait pertinent et parfaitement réaliste par rapport au budget qu'on a disponible et par rapport à l'intérêt scientifique d'une telle mission. Ce sur quoi on travaille dans les mois qui viennent, c'est si oui ou non, avec un scénario ESA seulement, on peut essayer de s'approcher d'Europa, c'est-à-dire faire quelques survols de la Lune Europa qui vont nous coûter très cher en termes de radiation. Est-ce qu'on va ou non pouvoir les faire, alors que dans le scénario initial, comme les Américains allaient là-bas, ben nous on restait plutôt tranquille dans le système externe, on s'occupait de Callisto, on s'occupait de Ganymède et on ne s'intéressait pas à Io et Europa. Donc là, voilà, dans les mois qui viennent, ce qui s'étudie, c'est la faisabilité pour le concept européen seulement d'aller s'approcher et de faire quelque chose autour d'Europa, en plus de son objectif Ganymède qui reste l'objectif primordial.
Au témoin d'un doute, aussi bien dans la partie européenne que dans la partie américaine, dans le précédent projet, il était exclu de se poser à la surface des satellites de Jupiter.
Il est totalement exclu de se poser à la surface. Oui.
Pourquoi?
Parce que c'est pas faisable dans les coûts que nous avons. Et c'est sans doute trop... On peut essayer, mais le risque est énorme et l'enjeu scientifique, pour l'instant, n'en vaut pas la chandelle. C'est une réponse brutale, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais en tant que responsable de l'équipe, je peux vous dire que les débats ont été assez importants sur le sujet et aujourd'hui, on en est là. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. On n'en sait pas assez, on peut faire déjà tellement de choses depuis l'orbite qu'on ne voit pas encore l'intérêt d'aller se poser à la surface de ces lunes, sachant que pour Europa, il faut bien réaliser que vous allez rester quelques minutes, 2 heures maximum. Après, tout est grillé. Hein.
Ah oui, c'est aussi violent que ça, c'est aussi
et on a ce problème, il faut avoir les batteries suffisantes, faut ça, et en plus, oui, c'est aussi caustique que ça, comme vous dites, oui, c'est très très agressif. Donc, il faudrait mettre tellement de masse en bouclier pour se protéger des radiations qu'il n'y a plus d'instruments scientifiques, en quelque sorte.
Alors, la place pour observer Ganymède en orbite, hein, ou en tout cas, c'est en orbite, on se met en orbite autour de Ganymède ?
On va se mettre en orbite autour de Ganymède, oui.
C'est beaucoup d'instruments scientifiques à bord ?
Oui, on est sur un concept quand même de mission lourde, c'est-à-dire assez similaire à une mission Cassini, dans des coûts inférieurs quand même, mais on est sur un concept de 10 à 11 instruments, ce qui est énorme. C'est les grosses missions. Mais comme on le dit, il y a une mission tous les 20 ans. En ce moment, tant qu'à retourner dans le système externe, on va faire ça. C'est la grosse différence avec une mission comme Juno, comme vous disiez, qui est une mission Discovery, qui va être à 400 et quelques millions de dollars. On va mettre une batterie d'instruments très limitée, pour des objectifs scientifiques très limités. Ces programmes Discovery de la NASA, c'est ça. Et il y en a dans le système externe. Dans l'idée, on va pas se mettre en orbite, c'est trop difficile, mais on va aller voir telle lune ou telle planète, on va faire un survol, peut-être plus d'un, tenter une mise en orbite si on peut, mais avec 2-3 instruments, pas plus, un objectif scientifique hyper ciblé, et ça marche. Là, on est sur un concept où non, tant qu'à y retourner, on reste 3 ans pratiquement au total, et il faut faire tout ce qu'on peut, donc on met une grosse famille d'instruments.
Avec quelle énergie on ne sait pas fabriquer en Europe des systèmes de type RTG, hein, c'est-à-dire petite centrale nucléaire au plutonium, on va utiliser des panneaux solaires ?
Oui.
Dans un environnement aussi complexe ?
Oui, donc je vous laisse imaginer la taille des panneaux solaires.
Dites-moi.
On est sur plusieurs dizaines de mètres carrés, et ils vont faire entre 60 et 80 mètres carrés de surface, ce qui fait beaucoup. Hein.
Ouais.
ça fait beaucoup. Hein. C'est des trucs de 20 mètres de long, quoi, sur 4 mètres de large. On est sur ce concept-là, qui en fait ne pose pas du tout de problème. Hein. C'est des choses qui se font en routine sur les satellites de télécom qui ont des besoins énergétiques énormes. J'avais jamais réalisé avant d'aller chez un des industriels qui a fait l'étude de faisabilité de la mission, j'ai jamais réalisé la taille des panneaux solaires qu'on envoie en l'air pour nos satellites de télécommunication. C'est énorme. En fait, c'est pas techniquement complexe, mais on a besoin de cette taille là à cause du fait qu'on est loin de Jupiter, donc on va avoir un besoin, une grande surface pour arriver à capter un peu d'énergie. Quoi. C'est extrêmement contraignant. Évidemment, on aurait des RTG, ce serait beaucoup plus simple. C'est contraignant par la taille, la masse, parce que cette masse-là, c'est de la masse qu'on ne met pas dans autre chose. Et puis aussi, parce que, encore une fois, les radiations, c'est assez difficile de savoir comment les panneaux, on le devine, mais les panneaux vont vieillir beaucoup plus, assez rapidement au fur et à mesure de l'évolution du système, ce qui fait qu'on ne peut pas de toute façon envisager une mission à la Cassini. On n'aura pas les batteries à ne savoir qu'en faire pendant 50 ans, comme Cassini pourrait faire. On sera de toute façon limité dans le temps sur une mission nominale, plus une extension très probable, si tout se passe bien, on parle en 2028, hein. On peut se permettre d'être optimiste quand même. Donc il y aura sans doute une mission étendue, mais on peut pas, les panneaux vont de toute façon nous limiter sur le temps.
À bord, une, si ce n'est des caméras, j'imagine. Vous avez insisté tout à l'heure pour dire que les images de Galileo, certes, avaient été intéressantes, mais compte tenu de la défaillance de l'antenne principale, elles étaient un peu dégradées. Qu'est-ce qui est prioritaire alors, je sais bien que c'est difficile pour vous de dire cela, mais comme instrument à bord, est-ce que c'est l'imagerie ? Est-ce que c'est d'autres, je dirais, sondes ?
Vous réalisez qu'une question comme ça, la moindre réponse que je donne,
absolument,
une autre partie de la communauté me tape dessus.
Tout à fait.
C'est un travail extrêmement difficile que de définir ce qu'on appelle on appelle ça une payload, on cherche le mot en français, un paquet d'instruments modèles. En fait, on a travaillé sur un paquet modèle qui permettait de faire l'étude de faisabilité avec les industriels. Bon, dans ce paquet modèle, qui encore une fois n'est pas, je suis très prudent dans ce que je dis, n'est pas la famille d'instruments qui sera réellement embarquée, parce que pour ça, il va y avoir un appel d'offres, si la mission est sélectionnée, et il y aura un nouveau comité scientifique qui décidera de ce que sera la famille globale, enfin la constitution des instruments. Mais au moins, nous, on s'est assuré que si avec celui-là, c'était faisable, ben on est sur un concept de mission réaliste. Il est évident que vous ne pouvez pas partir sans caméra. On imagine mal une mission comme ça, ne fournissant pas d'images haute résolution des lunes, de la planète Jupiter et de ces choses-là. Donc il y a différents types de caméras que vous devez embarquer, grand angle, moyen angle, etc. Aujourd'hui, puisqu'on est sur un orbiteur, on a cette nécessité de faire de la mesure de composition depuis l'orbite. Donc pour ça, c'est de la spectroscopie. Donc aujourd'hui, on utilise des imageurs hyperspectraux. Un qui s'impose sur les mondes glacés, c'est l'hyperspectral infrarouge. L'ultraviolet va aussi être utile, peut-être moins pour la composition des lunes, mais comme on est sur Jupiter, il y a tous ces problèmes auroraux, il y a tous les problèmes de la composition des exosphères, etc. Le spectro-UV va aussi être relativement important. Derrière ça, si vous voulez faire de la géologie, et pour les lunes, on parlait là une de nos priorités reste la détection d'océans. Donc si vous voulez faire de la géologie, en plus des caméras, vous allez peut-être vouloir faire de l'altimétrie. Un laser serait bienvenu. Le radar serait bienvenu. Comme on l'a fait sur Mars avec Mars 6 et Charade, explorer la subsurface, c'est quelque chose d'unique qu'on peut faire avec le radar et avec rien d'autre. Donc on a cela. Après, on va rajouter, si je dirais que c'est un peu le nœud de l'affaire, derrière ça, on va rajouter, si possible, quelque chose pour exploiter au mieux l'étude des magnétosphères et de Jupiter. C'est plus les lunes elles-mêmes, ça va nous aider, mais il y a tout un paquet plasma, un paquet d'études des plasmas et de toutes les particules énergétiques. On va avoir des instruments liés à ça. Ça va être important parce qu'on est dans un environnement magnétosphérique extrêmement complexe. Et encore une fois, même pour les lunes elles-mêmes, si on veut identifier les champs induits, si on n'a pas cette capacité, c'est pas qu'un magnétomètre quoi, qu'on aura obligatoirement. Il faut aussi toute une batterie d'instruments qui vont nous permettre d'identifier la contribution de chacun des champs. Donc ça fait partie des paquet qu'on doit sans doute mettre. Et finalement, si on peut optimiser la science de Jupiter en allant mettre un instrument qui va plus travailler sur les ondes, qui va nous permettre d'explorer la troposphère de Jupiter, ça va être plutôt intéressant. Et encore une fois, c'est voilà, je vous dis, sans mettre de nom, je vous donne un peu la batterie d'instruments sur lequel on peut réfléchir. D'abord, on s'est focalisé sur les lunes. Vous avez des imageurs hyperspectraux et des caméras obligatoires, un laser altimètre, un radar, un magnéto. Et puis derrière, si vous voulez avoir le champ mag et tout ça, vous allez mettre la batterie d'instruments qui vous permet de le caractériser. Et dans l'idéal, on va aussi faire de la science de Jupiter. On va quand même y passer souvent à côté. Ce serait dommage de ne pas optimiser ça.
C'est vrai que ça fait beaucoup d'éléments dans le couteau suisse.
Oui.
On utilise surtout une lame et un tire-bouchon en règle générale dans le couteau. Sans focaliser particulièrement sur l'exobiologie, mais vous avez parlé d'habitabilité. Existe-t-il un instrument ou une façon de répondre à la question l'océan souterrain est-il un nid, une source d'habitabilité pour une éventuelle recherche exobiologique?
D'abord, cette mission ne pourra pas démontrer qu'il y a ou non de la vie. Ça, c'est très clair. Pour ça, encore une fois, c'est pour ça qu'on distingue toujours, nous, la vie et l'habitabilité. L'habitabilité, c'est démontrer qu'il y a, en fait, cette capacité à, enfin, tous les éléments, c'est-à-dire la durabilité, le temps, l'énergie disponible, l'eau liquide, évidemment. Et puis, évidemment, il va m'en manquer un, mon trou de mémoire habituel. J'ai dit l'énergie, l'eau liquide, le temps et la chimie complexe. L'eau distillée, ça marche pas. Donc, on peut le faire avec une mission en orbite. C'est-à-dire démontrer que l'eau liquide est là, je vous en ai parlé, on va pouvoir le faire. Démontrer que la chimie est complexe avec des imageurs hyperspectraux, justement, on va essayer de caractériser, d'après ce qu'on voit en surface, on va essayer de caractériser la chimie de ces éléments qui ne sont pas de l'eau pure. Et il y en a plein sur les lunes. Ce qu'on va voir dans les exosphères aussi, tout ça, on va pouvoir dire des choses. La durabilité, c'est lié à l'origine et à l'évolution du système. Et par l'étude comparée qu'on va pouvoir faire, enfin l'étude des interactions entre les lunes, de la stabilité du système, le phénomène de résonance, etc., on va ou non démontrer que c'est un environnement stable, celui qu'on observe aujourd'hui. On n'a pas trop de doutes là-dessus, mais on va y apporter quelques contraintes. Et pour ce qui concerne l'énergie, on le sait déjà. Je vous l'ai déjà dit, regardez pour Ganymède et Europa, quand vous m'avez posé cette question sur la température interne, je vous ai dit, voilà, c'est des corps qui ont de l'énergie disponible. Donc voilà, ça c'est l'habitabilité. On peut le faire depuis l'orbite. Là, une fois qu'on saura ça, une fois qu'on aura démontré ça, pour l'instant, ça relève de la science-fiction d'aller regarder s'il y a ou non de la vie dans cet environnement habitable. Parce que cette vie, si elle existe, est très probablement à 100 km de profondeur. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit pour Europa, l'océan dont on parle fait, enfin, l'hydrosphère globalement fait 100 km d'épaisseur, et l'océan, s'il existe, il est en contact avec les roches au fond. Et la chimie complexe, qu'on va retrouver en surface parce qu'il y a des échanges, elle se passe d'abord au fond, et on pense, s'il y a de la vie, un problème d'hydrothermalisme, tout à fait similaire à ce qu'on a sur Terre. Il nous a fallu du temps pour découvrir la vie dans les fonds hydrothermaux des dorsales médio-océaniques. On imagine ce que ça va être d'aller explorer le fond de l'océan d'Europe, s'il y en a un.
Et percer 100 km de couche de glace
et
au-dessus.
Et quelques, ouais, 10-20 km de couche de glace pour aller ensuite dans les 80 km d'océan. Donc, voilà, ça faut pas y penser. De la même Ganymède, le débat est un peu plus complexe encore, puisque environnement habitable, c'est une chose, mais il y a cet écueil, en quelque sorte, cette différence fondamentale entre les deux lunes, qui est que l'océan de Ganymède ne sera jamais en contact avec la couche de silicate, parce qu'en fait, c'est de la thermodynamique, ça, il y aura entre l'eau liquide et la couche de silicate, obligatoirement une autre couche de glace, très épaisse, de très haute pression. Et donc, il n'y a pas d'échange automatique, ce qui ne signifie pas qu'il n'y en a pas, mais un des objectifs de la mission, c'est justement, en essayant de contraindre ces problèmes d'énergie et de dynamique de la Lune, de voir si oui ou non il y a des échanges possibles, une dynamique importante dans cette couche de glace épaisse qui pourrait justifier une chimie complexe dans l'océan.
Ce qui n'est pas le cas d'Europe, semble-t-il donc.
Europe n'a pas de glace de haute pression. L'hydrosphère sur Europe est beaucoup plus ténue que sur Ganymède. Europe, en fait, c'est simple. Si vous faites Europe, vous faites un noyau de fer, un manteau de silicate, puis vous mettez 100 km d'eau. Pour Ganymède, vous prenez Europe, puis vous lui rajoutez encore 500 km d'eau. Voilà la différence entre les deux. Et du fait qu'il y a beaucoup plus d'eau sur Ganymède, la pression, évidemment, quand on descend, est beaucoup plus importante dans cette hydrosphère. Et en fait, obligatoirement, à un moment donné, même si vous avez du liquide pas très loin de la surface, enfin, on va dire à quelques dizaines de kilomètres de la surface, obligatoirement, à un moment donné, vous allez retomber sur la glace parce que la pression est trop élevée pour autoriser à l'eau liquide de rester.
Et la glace,
et ce que je vous dis là, ouais, je vous l'ai dit un moment, modèle réduit des exoplanètes, toutes les autres planètes océans dont on vous parle dans les médias, c'est ça. C'est d'abord, c'est pas des, n'allez pas imaginer des mondes d'eau liquide avec de l'eau liquide qui va s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres. C'est impossible. Très très vite, vous retombez sur une couche de glace, haute pression, et en fait, la grosse majorité de l'eau, où qu'elle soit, quelle que soit son abondance, et d'abord et avant tout sous forme gelée.
Vous anticipez ma question de conclusion, mais je dirais qu'on fait de la planétologie comparée depuis de nombreuses années. On a mis du temps à aller, je dirais, auprès des autres planètes. On est passé, maintenant on revient en tourne-autour, bientôt, dans le siècle ou les siècles qui viendront, on se posera à la surface. Aujourd'hui, on fait de la planétologie comparée avec ce qu'on imagine être les exoplanètes et leur environnement. Quand on regarde la Terre en comparaison de ça, et on revient à notre système un peu unique, si je puis dire, on est encore dans un cas qui est un cas peut-être encore plus exceptionnel pour la Terre. Nous sommes dans un élément, on le disait en introduction de cette discussion, extrêmement sec, avec de l'eau. Vous nous dites maintenant qu'on ne peut pas imaginer autrement que par la fiction des planètes océans, comme on en a vendu entre guillemets quelques-unes quand on a découvert des exoplanètes dont on pensait qu'elles pouvaient être entourées d'eau. Ce sont des systèmes extrêmement contraignants. La Terre reste de plus en plus et fondamentalement une exception dans ce que nous connaissons dans l'univers.
Pour l'instant, elle reste unique. Je ne doute pas qu'on trouvera un jour une planète d'une taille assez similaire dans un environnement similaire où l'eau liquide peut exister en surface. C'est ça l'unicité de la Terre. Et cet environnement particulier où, comme je le disais au début, les trois états peuvent exister. C'est pas anodin. Je pense que c'est pas pour rien que la vie s'est développée là. C'est d'abord parce que les trois états peuvent exister. C'est très en surface, hein, je m'entends. Ce qui n'a rien à voir avec une vie en profondeur. Aujourd'hui, on le sait, c'est les enjeux des explorations exoplanètes, découvrir de nouvelles terres. Alors d'abord, on parle de super-terres en termes de famille, c'est-à-dire des masses assez similaires, avec des rayons assez similaires, et ça nous fait une super-terre. On connaît, il y en a trois actuellement qui sont des bons candidats de super-terres, enfin qui sont des super-terres, mais dans des environnements encore très très hostiles, extrêmement près de leur étoile, extrêmement chaudes, etc., enfin, au moins pour deux d'entre elles. Aujourd'hui, donc, on est toujours seul. Enfin, la Terre reste une planète unique en son genre. Je serais surpris qu'on n'en trouve pas d'autres, mais ça reste difficile à faire. Mais encore une fois, trouver cet environnement spécifique où une planète se trouve à la bonne distance de son étoile, bon, vu aujourd'hui, on est à 500 et quelques exoplanètes, bon, c'est d'abord des problèmes techniques qui rendent difficile la découverte d'une planète un peu comme la Terre, mais je serais surpris qu'on n'en trouve pas. Je suis résolument optimiste.
Merci Olivier Grasset d'être venu nous en parler, de nous parler de votre travail, de, je dirais, des étapes qui vous attendent. Bonne chance pour la place. C'est un beau parcours, c'est une belle destination. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment pour un prochain épisode.